Vous le savez sans doute, le Qatar devrait apporter sa participation sécuritaire au dispositif déployé par la France lors des prochains Jeux Olympiques à Paris. L'occasion pour nous et pour, bien sûr, Lucie Gilson de discuter de cet acteur central de l'actualité qu'est le Qatar avec Gérard Vespierre, géopolitologue et fondateur du site Le Monde Décrypté. Voici leur échange.
Bonjour Gérard Vespierre.
Bonjour à vous.
Vous êtes géopolitologue et fondateur du site Le Monde Décrypté. Alors, en mars dernier, le Qatar et la France avaient signé une série d'accords visant à consolider leur coopération en matière de sécurité à l'occasion de la visite du cheikh qatari Al Thani à Paris. Et cela comprendrait également une clause applicable aux Jeux Olympiques de Paris. Étant donné les liens présumés du Qatar avec les organisations affiliées à la mouvance islamique, comme le Hamas, et la décision de la France d'élever son niveau sécuritaire face à la menace d'attentat, l'implication du Qatar pose question.
Elle pose question ou bien elle apporte une réponse, n'est-ce pas? Il y a toujours dans l'histoire le blanc et le noir. Et il faut donc regarder avant toute chose, je dis bien avant toute chose, la relation contemporaine, j'allais pas dire historique, mais contemporaine entre la France et le Qatar. N'oublions pas que le Qatar, et ce sont des choses qui sont peu connues, a aidé la France lors de l'opération, oh là là, très longtemps maintenant, janvier 2013. Quand l'armée française est intervenue au Mali contre les groupes djihadistes. Et donc, nous avons une excellente armée, mais nous avons de faibles moyens de projection aérien. À l'époque, il n'était pas question de l'Airbus A400, et donc nous étions très, très pauvres en moyens de projection. Et le Qatar a mis à la disposition de la France un de ses avions de transport aérien stratégique. Le C-17, ces gros avions gris que l'on a vus il y a 3 ans ou un peu plus sur l'aéroport de Kaboul, n'est-ce pas, en portant 600 Kaboulis ou plus qui voulaient fuir leur pays et cela pendant 10 jours et émouvoir 100 000 personnes. Donc le Qatar a prêté à la France des avions pouvant transporter du matériel et des hommes entre la France et le Mali en 2013. N'oublions pas que le Qatar a été aussi le deuxième client de notre célèbre avion, le Rafale. 3 mois après la première commande à l'exportation passée par l'Égypte, donc février et mai 2015. Voyez-vous, donc il y a une antériorité, il y a une collaboration stratégique entre la France et le Qatar. Et donc, c'est pour ça que j'évoquais le blanc et le noir. Ne croyons pas que les relations internationales, comme je dis maintenant avec un petit brin de malice, soient faites par les ONG. Ce n'est pas parce que vous êtes mis au banc par les ONG que vous êtes un État paria, parce qu'il faut savoir faire le distinguo entre le pouvoir d'un État et puis les réminiscences des structures de cet État. Et pour le Qatar, je dirais, il y a une différence entre la famille régnante et puis des familles puissantes aussi qui veulent avoir un rôle à jouer et qui peuvent être un peu différentes en tant qu'option par rapport au pouvoir. Donc, on a eu le même phénomène en Arabie Saoudite. Bon. Donc, voilà, il y a la gouvernance du roi, les options prises par le pouvoir royal en Arabie Saoudite et les options prises par quelques familles. Donc, voilà, ne mettons pas tous les œufs dans le même panier, toutes les options dans le même sac. Il y a du recul à prendre de façon à voir les différences. Si nous voulons faire donc échec à d'éventuelles possibles tentatives de déstabilisation des Jeux Olympiques, peut-être faut-il intégrer dans nos propres réseaux des gens qui ont des oreilles et des écoutes auprès de ces réseaux, voyez-vous. Donc le monde n'est pas unipolaire, le monde est dual et il faut donc faire appel à toutes les capacités pour pouvoir maîtriser un tel événement qui constitue l'organisation des Jeux Olympiques dans un pays.
Alors, sur un autre dossier, le Qatar est également l'un des interlocuteurs principaux dans les négociations pour l'accord de la libération des otages. Et on a l'impression qu'il exerce une influence grandissante sur la scène internationale. Est-ce que cela fait partie des objectifs du Qatar à long terme?
Le Qatar est un petit État, je crois, de mémoire, à 3 ou 4 millions d'habitants et pas forcément tous qataris de point de vue de naissance, n'est-ce pas? Donc, c'est un petit État, mais qui est riche, qui est sur son territoire le premier gisement gazier du monde, qu'il partage au nord avec l'Iran et au sud, donc, pour lui-même. Il y a effectivement une richesse colossale qui fait du Qatar un fournisseur mondial dans le domaine du gaz et du gaz naturel liquéfié. Donc, il a mis cette richesse à la tête de moyens financiers considérables. Nous le savons, nous le voyons dans nos stades, nous voyons donc le rayonnement de ce pays par cette stratégie sportive que l'Arabie Saoudite aussi maintenant suit ou va suivre. Donc, voyez-vous, c'est un moyen, je dirais, de soft power, comme on dit maintenant, d'influence, d'avoir une place sur la scène internationale. Et je crois que aussi les puissances occidentales ont demandé au Qatar de s'immiscer, de participer à la situation, dans un premier temps au Moyen-Orient, et deuxième temps dans un règlement. S'il a apporté des moyens au Hamas, des moyens financiers au Hamas, c'est aussi en toute connaissance de cause, oh, j'allais presque dire à la demande, en disant, limitons-nous à la connaissance de cause de Tel Aviv. Donc voilà, il y a une organisation internationale, des rapports internationaux, et donc maintenant, effectivement, aujourd'hui même, au Caire, il y a une rencontre très importante entre le Hamas, Israël, le Qatar et bien sûr l'Égypte, puisque cela se passe chez elle. Donc voyez-vous, il y a, et c'est très bien que des puissances régionales se réunissent pour essayer de trouver des solutions à un cruel problème régional.
Alors oui, vous l'avez évoqué en effet, cette histoire de financement des accusations, le Qatar est sous le coup d'un certain nombre d'accusations par rapport à ça. Dans un communiqué publié récemment, un élu américain a affirmé que Doha avait versé près de 30 millions de dollars par mois au Hamas. L'ambassade du Qatar a réagi aujourd'hui en invoquant que c'était une contribution à l'aide humanitaire à Gaza en pleine coordination avec le gouvernement d'Israël. Vous semblez également l'évoquer dans votre réponse précédente. Mais est-ce que ça pourrait être une manœuvre de la part du Qatar pour justement antagoniser Israël?
Si ces fonds ne sont pas versés par le Qatar, par qui pourraient-ils l'être? N'est-ce pas? Donc il faut mieux qu'il y ait quelqu'un qui le fasse de façon officieusement officielle. Voyez-vous, si vous me permettez cette créative formule. Parce que ce sont des fonds qui sont versés au su et au vu de toutes les instances bancaires internationales. Bon, donc c'est quelque chose d'officiel, même si c'est pas sur le devant de la scène. Donc il faut que, effectivement, apporter des ressources à 2 millions de Gazaouis. Que se passe-t-il à la fin du mois et au début d'avril et au début du mois de mai? Eh bien, c'est l'US Navy qui va à établir un système maritime d'approvisionnement avec une plateforme à 5 km des côtes, avec une jetée mobile de 500 mètres de long, des barges de départ qui vont amener donc le contenu de cargo qui vont se décharger sur la plateforme et amener ensuite ces cargaisons sur le sol des plages. Donc il y a besoin vis-à-vis de 2 millions de personnes de ressources. Donc d'où qu'elles viennent, voilà, cela est nécessaire. Bon, donc puisque cela ne peut pas être fait immédiatement, régionalement, par les voisins, l'Égypte a ses propres contraintes. de 105 millions d'habitants. Donc, c'est déjà une priorité. Le Liban a d'autres soucis. Bon, donc, il n'y a que des États pétrodollars ou gazodollars, n'est-ce pas, qui puissent venir en aide à des populations qui en ont besoin.
Alors, j'aimerais maintenant aborder un autre sujet, c'est celle des relations du Qatar avec sa grande rivale, l'Arabie Saoudite. On l'a compris, le Qatar espère se positionner sur la scène internationale, devenir un interlocuteur de choix. Comment est-ce que cette ambition peut impacter ses relations avec l'Arabie Saoudite?
Il est déjà un interlocuteur de choix. N'oublions pas que les discussions entre les talibans et les États-Unis se sont déroulées où? À Doha, n'est-ce pas? Donc le Qatar est déjà au centre d'une toile de relations internationales. Et s'il y a eu une fâcherie entre effectivement, les pays du Golfe, et non pas seulement l'Arabie saoudite, mais l'ensemble des pays du Golfe et lui-même, et le Qatar de 2017, si ma mémoire est bonne, jusqu'en 2020, bon, parce que le Qatar, comme je le disais précédemment, partage la même ressource gazière sur le même gisement que l'Iran. Donc, vous avez là des relations, des liens économiques, industriels. Bon. Donc, ce qui a causé cette tension régionale, mais voyez-vous, qui a, après des fermetures de frontières, etc., au bout de 3 ans, on est revenu à une situation normale, au moins de dialogue et au moins d'échanges commerciaux, comme vous assistez au même échange de dialogue entre l'Arabie saoudite et son rival, l'Iran. C'est pas parce que on est du même avis qu'on se parle. On a besoin de se parler parce qu'on est sur des avis et des points de vue différents. Donc, ne confondons pas le tuyau des relations internationales, les ambassades et ce qui se dit, donc le flux. Il y a le tuyau puisqu'il est transporté, les négociations, les points de vue, les échanges, les propositions, les accords ou les désaccords, voire in fine des guerres et des conflits.
Eh bien, Gérard Vespierre, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes géopolitologue et fondateur du site Le Monde Décrypté. Merci d'avoir répondu aux questions de Radio Judaïka.
C'est un plaisir. Merci à vous.